tabassé à mort par amour. Paraît que c'est courant de nos jours. Le métier d'épouse n'est pas sûr quand on est la femme d'un vrai dur.
Parce que je suis une femme.
Mais celle qu'il appelle sa traînée d'infidélité soupçonnée a pourtant aimé ce débris qui la frappe à bras raccourcis.
Parce que je suis un homme, je ne pourrai jamais comprendre ce que c'est que d'être violé, martyrisé, battu, harcelé, sifflé dans la rue. Mais parce que je suis un homme, je dois écouter la souffrance des femmes pour que demain, il n'y ait plus rien à expliquer, plus rien à comprendre.
Au commissariat du quartier, la femme tuméfiée et l'époux sont debout devant le brigadier.
Marina a 25 ans, elle est aveugle et elle a été victime d'un inceste de 8 à 17 ans. Je vous propose d'écouter son témoignage sans jamais la juger, juste en écoutant, juste en essayant de comprendre.
Oui, c'est à toutes les femmes battues.
Chapitre 1, la jeunesse. Marina et l'école, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le grand amour. Bonjour Marina.
Bonjour.
Marina, pour les gens qui ne peuvent pas vous voir, hein, je vais un petit peu vous décrire. Vous êtes une jeune femme de 25 ans, toute fine. Vous n'avez pas de lunettes spéciales, hein, vous êtes malvoyante, vous n'avez pas de lunettes spéciales, vous avez un très joli visage, vous êtes habillée très jeune, vous êtes une jeune fille, je dirais comme toutes les autres, tout simplement une jeune fille de 25 ans. Justement, Marina, en parlant de jeune fille, racontez-moi un petit peu votre jeunesse. Votre jeunesse, c'est quasiment toute votre vie, parce que vous êtes encore toute jeune.
Oui.
Est-ce que vous... D'où êtes-vous ?
De Carcassonne. Enfin, je suis née à Carcassonne, mais j'ai vécu à Trèbes, dans un village pas loin de Carcassonne, jusqu'à l'âge de mes 15-16 ans. Et après, j'ai déménagé avec ma mère et mon beau-père à Roubia, dans un petit village.
D'accord. Alors, vous êtes malvoyante ? On dit, vous êtes malvoyante ou aveugle ?
Je suis classée par le ministère de la Santé non-voyante.
Non-voyante.
Et je vois un peu, mais voilà, vu que j'ai 0,2,
d'accord.
Je suis classée non-voyante.
D'accord. De naissance ?
Oui.
De naissance. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout dans une logique de vous rappeler ce que vous avez vu ou de regretter ce que vous avez vu et que vous ne voyez plus. Vous avez toujours vécu dans cette situation.
J'ai toujours vécu dans cette situation et j'aimerais pas mieux voir. Si bien qu'il y avait un traitement qui aurait pu me permettre de mieux voir. Ma mère, elle a signé parce que j'avais 15 ans. Et dès que j'avais 18 ans, j'avais connu un couple d'amis qui ont fait une lettre pour dire que je ne voulais pas faire le protocole, vu que j'étais majeure, parce que je ne voulais pas le faire. Donc j'ai dit à ses amis, vu que je ne sais pas écrire, qu'ils le fassent, et ça s'est fait, puisqu'ils ne m'ont plus jamais appelé. Donc voilà.
Pourquoi vous ne voulez pas voir ?
Parce que j'ai toujours connu ça, et j'aimerais pas découvrir la vue. Je ne sais pas comment je le vivrais. C'est vrai que les gens ne le comprennent pas,
ouais.
Mais bon.
Ça vous fait peur quand vous y pensez ? Quand on vous a dit, plus jeune, eh ben écoute, peut-être t'as la possibilité de voir. Qu'est-ce que ça vous a inspiré tout de suite ? C'est de l'angoisse, de la peur ?
De l'angoisse. Quand ma mère, elle a signé, j'étais mineure, j'avais peur. J'ai dit, putain, j'ai pas envie de voir. Comment je vais faire ? Je suis mineure. Ma mère, elle a... Voilà, son but, c'était que je voie mieux au lieu de m'apprendre à vivre avec l'handicap que j'ai. C'était son but. J'ai dit, merde, quoi, quelle perte de temps. Et quand j'avais rencontré ces gens qui ont fait la lettre, j'étais soulagée.
D'accord. Donc,
là, je suis soulagée.
C'est
un problème de moins dans ma vie.
C'est un joli message. En fait, vous revendiquez de vivre comme vous êtes.
Oui.
Tout simplement.
Et c'est dommage que ma mère, elle ne m'a pas appris. Parce que du coup, elle pensait que j'avais que des problèmes de vue. Uniquement de vue, elle n'a pas cherché plus loin.
la petite Marina. Est-ce que la petite Marina, toute petite, à l'âge où les autres vont à la maternelle, est-ce que vous, vous avez été scolarisée? Est-ce que vous avez des souvenirs d'école?
J'ai pas de souvenirs avant mes 6-7 ans.
Pourquoi vous n'avez pas de souvenirs avant 6-7 ans? Parce que vous n'avez pas été à l'école avant?
Si, j'étais à l'école avant. Ma mère me l'a dit. Des fois, j'ai des petits flashs quand je mange certains fromages en ce moment.
Ouais.
Mais bon, c'est pas dans ma jeunesse. Enfin, en ce moment, j'ai des petits flashs et bon, ma mère me dit que j'étais à l'école et bon.
Et vous vous en rappeliez pas bien?
Un peu la grande section, mais pas trop.
Pas trop.
La maternelle, j'ai pas de souvenirs.
D'accord. Ah, vous avez été dans d'autres classes que la maternelle?
Oui. Le CP, CE1, CE2, CM1, CM1, deux fois CM1, CM2. Ça, je m'en rappelle.
Et ça, c'était des classes, on dit ordinaire ou adaptée?
Alors, au début, j'allais deux jours par semaine en école spécialisée, mais j'étais pas interne. Du coup, c'est vrai que c'était galère, et deux jours par semaine en école ordinaire. Et c'était pas évident de naviguer dans deux écoles, surtout que j'étais pas à l'internat, donc bon, c'était pas terrible, quoi. Je pense qu'il aurait mieux valu que je sois à l'internat d'un seul coup dans une école spécialisée. Je sais, voilà, parce que j'ai des souvenirs du primaire, hein, j'étais plus grande. Je sais que j'avais des auxiliaires de vie scolaire, mais que bon, j'avais pas d'amis à l'école, je faisais que crier « qui veut jouer à la maîtresse avec moi ?»
Ouais.
J'ai demandé, parce que ma mère ne me dit pas tout, j'allais vers les adultes. J'ai demandé les rapports à ma mère qu'elle m'a envoyé par WhatsApp, qu'Aurélie m'a lu il n'y a pas longtemps, puisqu'on est très proches.
Alors Aurélie, c'est votre auxiliaire de vie, hein?
Oui.
Voilà.
Bon, elle m'a lu les rapports il n'y a pas longtemps, puisque ma mère ne me dit rien. Donc j'allais beaucoup vers les adultes et je parlais de moi à la troisième personne.
Ah oui. Vous dites, j'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Pourquoi vous croyez?
Ben, j'étais mieux dans l'école spécialisée, j'en avais plus, des amis, dans l'handicap, parce que je pense que ben, je voulais pas, je pense, m'intégrer aux valides, où j'aimais bien les adultes.
Vous étiez en décalage?
Oui.
Et vous étiez en décalage, est-ce que vous aviez quand même le sentiment que ces gens qui étaient en école valide, eux, étaient prêts à vous accueillir, ou alors vous n'étiez pas prête, vous n'en aviez pas envie?
Je pense que j'étais pas prête, puisque je me balançais dans la cour de l'école. Si, au CP, je criais « qui veut jouer à la maîtresse ?»
Oui.
Je m'y prenais mal. Et après, vu que j'étais mieux en école spécialisée, bon, j'avais une ou deux filles qui venaient vers moi. Après, c'est vrai que ma mère aussi, elle aimait pas que j'aille chez les amis. Donc je pense qu'il y avait une ou deux filles qui m'avaient peut-être proposé d'aller chez elles, mais après ma mère faisait pas non plus ce qu'il fallait. Donc après je voulais pas commencer des relations si c'est pour pas nos anniversaires, quoi.
D'accord.
Parce que vu qu'elle était un peu sauvage.
Qu'est-ce qui était mieux dans l'école spécialisée? Alors déjà, c'est quoi cette école spécialisée? Qu'est-ce que vous y faisiez de particulier?
C'était l'Institut des jeunes aveugles. Je faisais un peu de scolarité. Bon, vu que j'étais pas interne, c'était pas facile. Je faisais quelques activités du mercredi, c'était surtout des visites, parce que les ateliers cuisine, c'était pour les internes. Et j'aimais mieux l'école spécialisée. Déjà, c'était à 1 heure de chez moi, c'était à Toulouse. Donc même si j'entretenais des relations, que je pouvais pas aller chez eux, il y avait l'excuse du trajet.
Ah oui, et comme ça, vous pouviez parler avec les copines dans le transport.
Et dans l'école.
Et dans l'école, ouais.
Et il n'y avait pas de soucis de trajet. Enfin, voilà, il n'y avait pas l'excuse de dire « je ne peux pas venir », parce que ma mère ne veut pas déjà. Et puis, on se comprenait. Quand je faisais ma danse et tout, c'était bien.
Vous faisiez de la danse aussi?
Ma danse spéciale.
C'était quoi la danse spéciale? Racontez-moi.
En fait, même maintenant, je le fais avec la musique. Je mets un pied devant, un pied derrière. Et je tape des mains, je me balance avant-arrière.
D'accord. Ça, c'est un truc à vous?
Oui.
Il n'y a que vous?
Après, je pense qu'en France, peut-être il y en a d'autres qui le font, hein. J'ai pas la prétention. Mais...
Pourquoi vous êtes mis à faire ça?
Eh ben, je l'ai fait, je m'ennuyais au CP, et un jour, et bon, c'est resté.
Qu'est-ce que vous avez appris dans cette école?
Normale ou spécialisée?
Celle que vous voulez, les deux. Est-ce que déjà, dans l'école normale, vous avez le sentiment d'avoir appris quelque chose?
Une relation, une auxiliaire de vie scolaire, Virginie, bon, j'ai dit le prénom, qui m'a un petit peu appris, elle a essayé de m'apprendre des choses. Après, bon, ma mère me faisait tout, je n'étais pas autonome. Elle a essayé de m'apprendre à mettre des choses dans un sac et tout. Elle a essayé un petit peu d'apprendre à me moucher.
Oui.
Bon, après, j'ai appris un peu les matières normales, quoi.
Oui. Et à l'école spécialisée ?
Ben, quand j'étais à l'internat, un peu l'amitié avec les gens de mon âge, un petit peu.
Mmh.
Par exemple, les soirées filles le soir, les soirées pyjama, les booms, qu'on amène des bonbons, chacun amène des bonbons.
C'est rigolo parce que quand je vous demande ce que vous avez appris à l'école, vous ne parlez que des relations humaines. Vous me parlez très peu de ce que des matières de l'école, les maths, le français.
Je n'ai pas trop, donc... Bon, je préfère apprendre avec les actualités un peu l'histoire et tout. Après, le français, j'en ai appris. Mais bon, je fais des fautes d'orthographe, j'étais pas forte. J'aimais bien que l'éducation civique, où on parlait de politique, des élections, c'est
ça,
tout.
Ça vous intéressait, l'environnement toujours, vous intéressait.
Toujours maintenant, toujours l'actualité, mais dans ma jeunesse, c'est plus ça. Après, c'est sûr que je préférais manger des bonbons que réviser le soir. J'ai appris le braille quand même.
Ah, j'allais vous en parler, parce que les gens qui nous écoutent, ils se disent, une jeune fille... qui est une jeune fille ou un jeune homme, hein, qui est non-voyant, quand il va dans une école spécialisée, c'est pour apprendre le braille.
Ben, j'ai appris le braille intégral.
Oui.
Et d'ailleurs, je participe en ce moment à un concours, le poinçon magique. Donc, j'ai appris le braille et l'envie d'avoir un portable. Parce que quand je suis rentrée au collège, dans l'école spécialisée un peu tard, je ne voulais pas de portable. Je trouvais que les gens qui avaient des portables, les jeunes, ils étaient cons. Et puis, avec les relations sociales, ça m'a donné l'envie d'avoir un portable.
Un ordinateur portable ?
Non, téléphone.
Un téléphone portable. Alors, on y reviendra sans doute hein, sur le téléphone portable, mais moi, je voudrais savoir le braille, parce que le braille, on a l'impression qu'une fois qu'une personne non-voyante l'acquiert, elle gagne beaucoup plus en liberté. Pour vous, tel que vous me le racontez, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu anecdotique.
Ben, je m'en servais pour faire de la scolarité,
oui.
De lire un petit peu, quoi, parce que vu que bon, j'avais pas de portable, je m'ennuyais, du coup je lisais, à l'époque.
Et vous lisez plus ?
Non.
Bon, on en reparlera là aussi. Est-ce que c'est dur à apprendre le braille pour, parce que vous aviez quel âge à l'époque que vous avez commencé ?
9 ans, surtout qu'au début j'avais commencé à apprendre l'écriture en noir.
L'écriture en noir ? Normal. L'écriture normale, c'est ça ? D'accord.
Et après, j'ai estimé que j'allais pas assez vite, alors j'ai dû apprendre le braille à 9 ans, et ça m'embêtait, parce que c'est pas évident d'apprendre à 9 ans quelque chose qu'on pensait jamais apprendre.
D'accord. Est-ce que vous avez eu le sentiment quand même, au fur et à mesure de l'apprentissage, que vous étiez en train de gagner en liberté ? Ben, parce que j'imagine que vous avez eu accès à des livres, hein, vous nous l'avez dit,
oui,
vous avez lu.
Livres.
Donc c'était sympa ou c'était quand même une contrainte cet apprentissage ?
Une contrainte.
Vous n'aimez pas apprendre ?
Pas au niveau de l'école, je préfère apprendre...
De la vie ?
Oui.
Oui ? Jusqu'à quel âge vous avez été à l'école, Marina ?
17 ans.
17 ans.
Oui.
Pourquoi ça s'est arrêté ?
Parce que, dû au traumatisme, après, j'avais des relations avec des jeunes sexuels. Voilà, et puis je m'étais mêlée d'une affaire de viol qu'avait vécu une amie. Et voilà, et du coup, le débordement. Et puis j'avais parlé à la radio en disant à quelle école j'étais, à Beurre FM, à Confidence aussi. J'avais raconté mon histoire, quelqu'un m'a reconnu vu que j'ai parlé de l'école, le tout.
D'accord.
Un peu de tout.
Donc
ça
en fait, la vie personnelle, on y arrivera plus tard hein, sur ce qui s'est passé, la vie personnelle a débordé sur la partie scolaire et donc là, tout s'est arrêté. L'école,
oui.
L'école s'est arrêtée.
Oui.
C'est ça ?
Oui.
Très bien. Marina, vous nous l'avez dit, vous avez été à l'école spécialisée grosso modo jusqu'à 17 ans. 17, 15, 16, 14, tout ça, c'est des âges où on commence à rencontrer peut-être des petits amis ou à y penser. Est-ce que déjà dans l'école où vous étiez, il y avait quelques rapprochements entre jeunes ?
Au début, j'en aimais un qui ne m'aimait pas, il s'appelle Mathias.
Oui.
Bon, après, je l'ai vite oublié.
À quel âge, ça ?
14 ans.
Alors, à 14 ans, vous êtes tombée amoureuse de Mathias.
Oui.
Et il était dans l'école spécialisée avec vous.
Oui.
Et alors, il ne vous aimait pas, lui?
Non.
Ça vous a rendu malheureuse?
Un peu, mais après j'ai dit ça fait partie de la vie, puisque j'en avais parlé à mon père qui m'a dit c'est pas grave.
C'est pas grave. Et alors, je vais vous poser une question, je m'excuse, hein, qui est toute bête, mais on tombe amoureuse de quoi ou de qui quand on peut pas le voir, Marina?
La voix.
Ouais.
De la voix et quand on touche les mains, parce que quand on est non-voyant, on doit tenir le bras pour nous guider.
Oui.
Donc l'été, quand il y a les manches courtes, on sent la peau.
D'accord.
Il y a l'odeur.
Oui. Ah oui, c'est tout ça. Vous faites abstraction forcément de l'image puisque vous ne l'avez pas, mais vous vous attachez à des choses très concrètes. Hein, l'odeur, le toucher.
La voix.
La voix. La voix. Vous, j'ai l'impression que la voix compte énormément pour vous.
Oui.
Oui. Qu'est-ce que vous aimez comme genre de voix?
Les voix un peu graves,
ouais,
pour les hommes, et pour les filles, les voix un peu aiguës.
D'accord.
Mais bon, une fille qui a une voix grave, ça peut être joli.
Ça peut être joli.
J'aime pas trop ma voix, par exemple.
Mais votre voix est charmante. Vous verrez quand vous vous écouterez, votre voix, elle est charmante. Alors, il y a eu ce jeune homme qui a laissé passer sa chance. Hein, et puis après?
Ben après, il y a eu des rapprochements corporels.
Oui, donc vous êtes tombée amoureuse ou alors...
Non, pas amoureuse, sexuelle.
Sexuellement. Vers quel âge?
Ben, quand il n'a pas voulu de moi, après à 14 ans, pareil. 14 ans et demi, puisque c'était en décembre, le premier, début décembre.
14 ans et demi, le premier, c'était quelqu'un de l'école?
Oui.
Comment vous expliquez ce premier rapport immédiat, quasiment, puisque il n'y avait pas d'antériorité, il n'y avait pas d'histoire d'amour avant? Comment ça s'est passé?
On se connaissait, on était dans la même classe, on était dans le même groupe, on était amis.
Oui.
Et après, il y en avait une qui m'avait raconté sa première fois.
Et une autre personne comme vous, malvoyante?
Oui. Ouais. Et puis après, l'envie d'essayer. Avec Jennifer, ma colocatrice de chambre et meilleure amie de l'époque, on en parlait. Bon, elle avait son fantasme de Johnny Hallyday.
Oui.
Bon, moi, j'avais pas d'idole chanteur à l'époque.
Oui.
Et bon, Romain, il était sympa. Voilà, on se connaissait bien.
D'accord. La décision de passer à l'acte, finalement, on a l'impression, quand on vous écoute, que ça s'est passé le plus naturellement du monde.
Oui, et puis après, il y avait Jennifer, elle attendait son tour. C'était chacune notre tour.
Ah, vous aviez le même amant?
Oui, puisqu'on savait qu'il n'y avait pas d'histoire d'amour et on le connaissait bien.
D'accord. D'accord. Donc, c'était une histoire collective un peu.
Hein? Oui, toutes les deux.
une histoire collective. Vous en parliez chez vous, à la maison?
Non, puisque ma mère pense qu'il faut attendre 6 mois avant de le faire avec la personne et qu'il faut l'aimer, vivre avec. Puisque bon, ma mère, elle a des origines algériennes.
D'accord.
Alors bon.
Et ça, vous en aviez... Enfin, bien sûr, vous n'avez pas raconté ce qui s'est passé, mais c'est quelque chose dont elle vous parlait, les relations avec les hommes ou avec les femmes d'ailleurs.
Ma mère, elle est... Ben, le premier, c'est le bon pour elle.
Oui. Elle était mariée avec le premier homme de sa vie?
C'était un mariage arrangé.
Oui.
Et donc, elle a eu mon frère. Et après, elle a quitté. Après, elle a rencontré mon père.
D'accord. Et là, c'est un mariage d'amour.
Elle ne s'est pas mariée après.
Elle ne s'est pas mariée. Elle a vécu avec.
Oui.
D'accord. Donc, vous avez un demi-frère?
Oui.
Qui vivait avec vous?
Oui, jusqu'à ses 18 ans.
D'accord. Quelle relation vous aviez avec lui?
Ben, il y avait l'écart d'âge. Moi, je suis née, il avait 8 ans.
D'accord.
Ben, pas fusionnel, comme maintenant, quoi. Par exemple, je ne vais pas lui téléphoner, donc à l'époque.
D'accord.
Moyen.
Alors, vous parlez souvent de votre mère. Votre mère, c'est vraiment un repère très important, j'ai l'impression.
Ben, on a des désaccords. Bon, je vous parle de l'époque, de l'adolescence.
Oui.
J'étais plus fusionnelle avec mon père qu'avec ma mère.
D'accord. Et c'est curieux parce que quand je vous écoute parler, vous ne m'avez jusqu'à présent pas parlé de votre père alors que vous parlez que de votre mère.
Parce que ben, on s'entendait pas trop et mon père, ben, on s'entendait bien, quoi.
C'est assez curieux, c'est-à-dire que vous retenez là, la relation avec votre mère prend beaucoup d'importance parce que, justement, vous aviez des points de désaccord.
Oui.
Mais elle reste importante pour vous, votre mère.
Pour tante, c'est ma mère. Après, je l'appelle pas tous les jours maintenant, quoi. C'est pas fusionnel. Comme je connais des gens où la relation mère-fille, c'est fusionnel. Aurélie, je peux le dire. Aurélie, elle a une fille, c'est plus fusionnel que ma mère et moi.
Hein. D'accord. Est-ce que c'était quand même quelqu'un dont vous aviez la sensation, votre maman, qu'elle vous protégeait, qu'elle vous couvait, non. qu'elle vous... Ou alors début... qu'elle essayait de vous autonomiser?
Alors, elle me faisait tout. Bon, après, j'ai su qu'elle touchait d'argent et tout bien plus tard. Mais au début, je pensais qu'elle me couvait trop parce qu'elle me faisait tout. Et bon, après, je me suis rendu compte qu'elle ne m'a pas protégée. Bon, ça, on n'est pas dans les faits, donc on n'en est pas là. Mais avant, j'avais l'impression, et en fait, c'était de la possessivité, je me suis rendu compte.
D'accord. Donc, votre maman...
Ma mère, elle voulait virer mon auxiliaire de vie scolaire Virginie, parce que je n'avais pas de codes sociaux à l'époque, quoi, comme maintenant, quand on est non-voyant. Ma mère ne les a pas appris. Et donc, Virginie, elle va alerter ma mère, que je n'avais pas de codes sociaux. Et ma mère, elle voulait la gicler. La virer, elle avait appelé l'inspection académique. Et c'était à deux doigts. Et moi, je voulais la garder. Mon père m'avait aidé.
D'accord. Alors, votre mère était quand même...
Après,
alors...
mon père, il avait des voisines, des voisins.
Oui.
Et donc, je m'étais fait sympathiser avec eux, bon, quand ils se sont séparés. Mmh. Et donc, la femme se faisait battre et ma mère, elle ne voulait pas que j'y aille là-bas. Parce qu'elle avait vu, quand ma mère est venue me chercher, le père engueulait la mère de la fille. Et mon père, il m'y amenait quand même. Mais d'accord. Bon, ma mère ne voulait pas que je fréquente cette fille et voilà quoi.
Alors votre maman quand même, c'est vrai que vous avez des points de désaccord et des souvenirs de désaccord. On a quand même l'impression que ça reste quelqu'un de présent. Des fois, les gens peuvent être présents et sans qu'on soit toujours d'accord avec eux. Mais en tout cas, c'est l'image que vous renvoyez toujours. Aujourd'hui, vous avez toujours des rapports avec votre maman, même s'ils sont plus distendus ou pas du tout?
Oui, de temps en temps, mais c'est plus distendu.
C'est plus distendu. Alors... on va parler un petit peu de votre père. Votre père, donc lui, c'est votre vrai père, hein, puisque, enfin, c'est votre vrai père parce que vous aviez donc un demi-frère. Comment il était, ce père? Il était du même âge que votre maman, plus âgé?
À peu près, plus âgé.
Qu'est-ce qu'il faisait, votre papa, dans la vie?
Boulanger.
Il était boulanger. Il était à son compte ou il était ouvrier-boulanger?
Ouvrier-boulanger.
Ouvrier-boulanger. C'était quoi la principale qualité de votre papa?
C'était un bon cuistot,
ouais.
Déjà, et puis il me défendait bien, puisqu'il m'a dit, si un gars qui t'embrasse sur la bouche, je lui fous un coup de boule.
Ah, donc, alors, d'accord. Donc c'était quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un de protecteur.
Oui.
D'ailleurs, j'en parle au passé. Est-ce que votre papa, c'est quelqu'un avec qui vous avez toujours des relations?
Non.
D'accord. Donc, quelqu'un de protecteur, est-ce qu'il était présent dans la vie de tous les jours, à savoir pour l'école? Est-ce qu'il s'intéressait à votre scolarité? Est-ce qu'il s'intéressait à vos amis? Est-ce que...
Ben oui, ma mère, elle a dit qu'il s'intéressait à rien, mais moi, dans mes souvenirs que j'ai après mes 6 ans, puisque je n'ai pas avant de souvenir.
Oui.
Oui, j'avais l'impression qu'il s'intéressait. Quand ma mère, elle lui disait que je travaillais pas bien à l'école, bon, mon père, il m'avait tapé sur les fesses à la ceinture.
Oui, ah, d'accord.
Mais sinon, il s'intéressait à mes amis.
D'accord. D'ailleurs, c'est intéressant, quand vous parlez de ça, il était perçu comment à l'extérieur? Alors, comment était perçu votre maman? Est-ce que vous le savez? Et comment était perçu votre papa?
Bon, quand on s'est séparés, mon père, il a dit que ma mère, elle était spéciale et tout, qu'elle avait jeté et tout. Ma mère, après les faits, elle a dit qu'il était bof à côté de la plaque.
Ouais.
Bon, de l'extérieur, après, il était perçu quelqu'un de bien.
Il était perçu, et votre maman aussi?
Une femme à homme.
Votre maman?
On a eu des hommes après, même mon père. J'ai appris qu'il avait des soupçons de tromperie. Bon, je l'ai su après, mais bon.
D'accord. Mais dans la cellule familiale, c'est-à-dire avant la séparation, puisque je crois comprendre qu'ils sont séparés aujourd'hui.
Oui, à l'âge de mes 8 ans, ils se sont séparés.
D'accord. Ah oui, donc vous ne viviez pas avec vos parents tout le temps. Vous étiez soit chez l'un, soit chez l'autre.
Oui, à partir de mes 8 ans.
À partir de vos 8 ans. D'accord. Est-ce qu'avec votre papa, vous aviez des activités? Je ne sais pas, est-ce qu'il vous amenait vous promener? Est-ce qu'il vous amenait à la fête? Est-ce qu'il était généreux avec vous?
Il m'amenait à la fête foraine.
Oui.
Il m'achetait des Capitaine Choc.
Oui.
D'ailleurs, ça me manque. Et ouais. Puis, m'écouter. Une fois, pour mes 10 ans, il m'avait fait un royal.
Ouais.
Il m'avait acheté une paire de boucles d'oreilles à dauphin en or. Je les ai gardées 5 ans. Et puis, je les ai perdues dans un appartement qu'on était en vacances en Espagne avec ma mère. Ouais. Bizarre. Je crois pas au hasard. Je pense qu'elle en avait marre. Je pense qu'elle me les a volées. J'y crois pas à la perte. Parce qu'à 15 ans, on perd pas ses boucles. J'ai des boucles d'oreilles, je les ai jamais perdues. Enfin bon, c'est bizarre.
Quand on discute un petit peu avec vous, on a l'impression que, de façon très schématique, hein, vous gardez de votre maman un peu la discorde et que vous gardez de votre papa la protection.
Oui, même s'il y avait des fois des discordes avec mon père, parce qu'il voulait que je travaille bien.
Mais quand vous y pensez aujourd'hui, on a l'impression que ces souvenirs sont... Voilà, c'est un peu comme ça.
Ah ben, à part, bon, même s'il y avait des discordes avec mon père, j'en avais beaucoup moins. Et puis, par exemple, mon père, il m'a amené voir Anaïs, même si ma mère, elle lui avait dit non.
Ils s'en foutaient. Donc, c'était la voisine.
Oui. Et voilà, il m'a pas dit, ben non, il faut pas y aller, la mère se fait battre et tout. Ma mère les traitait de cas social.
D'accord.
Mon père, et puis il m'a sauvé, il m'a aidé parce que j'avais 13 ans, je ne pouvais pas me battre toute seule, à garder Virginie, mon auxiliaire de vie scolaire, ouais, avec qui j'ai des contacts.
C'était très important. Ça, c'était des choses très importantes. Et donc, on en garde l'idée, moi en tout cas, hein, et dites-moi si je me trompe, que vous avez plutôt des souvenirs assez agréables de votre papa et des souvenirs un peu plus compliqués avec votre maman.
Oui.
En tout cas, à cette étape-là de notre entretien, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
Chapitre 3, l'inceste. Marina, vous nous avez parlé de votre enfance, de votre scolarité, de votre papa, de votre maman, et puis donc avec des relations un peu conflictuelles avec votre maman et des relations finalement très protectrices, hein, de votre père à votre égard. Et pourtant, si on est là aujourd'hui, c'est parce que votre papa n'a pas eu un comportement approprié avec vous, c'est-à-dire que vous avez été victime d'inceste.
Oui.
Comment cela a-t-il démarré et à quel âge? En tout cas, à quel âge vous vous rappelez avoir eu conscience de ça?
Bon, ça a démarré après conscience, je l'ai eu à 15 ans. Mais ça a démarré à 8 ans. Déjà, mon père, il m'a dit que je ressemblais à ma mère, que ma mère, elle était belle. Parce que, il l'aimait. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ma mère, elle m'aimait pas, mais moi, je l'aimais.
D'accord.
Voilà, après, on se faisait des câlins. Après, il m'a dit qu'il y en avait qui faisaient des gros câlins. Et du coup, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, c'est ce que je faisais avec ta mère, mais que les pères pouvaient le faire avec leur fille. Et il m'a parlé un moment, quoi. J'ai dit, d'accord. Et après, ça a commencé par des caresses, partout, et puis des frottements, et jusqu'à la pénétration.
Alors, on reviendra là-dessus. Vous avez 8 ans,
oui.
Quand ça démarre, vous nous avez dit qu'en fait vos parents se sont séparés à 8 ans.
Oui.
Hein, quand vous aviez 8 ans.
Oui.
Donc j'imagine qu'à l'époque vous aviez des moments chez votre papa, des moments chez votre maman.
Un week-end sur deux.
Voilà. Et là,
la moitié des vacances.
Donc les choses démarrent quand la séparation est effective, quand vous allez pour les premières fois chez votre papa,
oui.
Ou alors. Est-ce que des choses avaient un peu démarré un peu avant, ou vous, comme vous vous en rappelez?
Alors, moi, je pense que ça n'a pas démarré quand ils étaient ensemble. J'y crois pas du tout. Même si ma mère me dit que ça a dû démarrer avant, ça, je n'y crois pas du tout. Ça a commencé à la séparation.
À la séparation. Est-ce que votre papa, à l'époque, quand il s'est séparé de votre maman, est-ce qu'en fait, il a vécu avec quelqu'un d'autre ou pas ?
À 8 ans au début, jusqu'en 2008, il avait une femme chacun chez soi, quoi. Je la voyais pas souvent.
D'accord.
Mais bon, après, il me parlait beaucoup de ma mère, quoi. Il avait dans la peau.
Il avait dans la peau. Vous dites quand même que votre père, pour se rapprocher de vous, vous parlez de votre mère.
Oui. Enfin, pas pour se rapprocher, je pense. Pour pas l'oublier, quoi. Parce qu'on était proches, c'est pas... Il avait envie de parler de ma mère.
Il avait envie de parler de votre mère.
Oui.
Il y avait, pour vous, il n'y avait pas de lien physique, c'est-à-dire que vous n'étiez pas à la place de votre mère.
Quand ils m'ont parlé au début, je pense pas. Mais après, quand il a commencé, parce que j'analysais avec le temps, bon, je pense qu'après j'ai pris la place de ma mère. Il la voyait à travers moi, je pense.
Ça a duré de 8 ans.
Alors, il avait arrêté après quand j'avais 12 ans.
Oui.
11-12 ans, 2007-2008, puisqu'il avait rencontré quelqu'un d'autre. Bon, il m'a toujours dit que c'était autorisé et tout ça, que ça se faisait. Et après, ça redémarrait en 2011, puisque sa copine, elle avait une petite fille, quoi, elle était grand-mère. Mmh. Et du coup, il lui a dit que sa copine, elle s'occupait moins d'elle. Voilà, c'était le bébé. Après, elle travaillait dans une crêperie. Et du coup, quand on était tous les deux, ça commençait qu'il m'a montré un film avec... il m'a dit des pères et des filles qui faisaient l'amour. Et après, il m'a dit, ben, on peut recommencer. Et puis, voilà.
Quand tout ça a commencé et qu'il vous parlait, qu'est-ce que ça vous inspirait au début?
Quand il me parlait de ma mère?
Non, quand il vous parlait de ses relations qui finalement étaient normales d'après lui.
Mais vu que j'avais pas d'amis à l'époque, parce que j'étais en école ordinaire, je pensais que c'était normal.
Vous pensiez que c'était vrai?
J'ai jamais dormi chez des amis.
D'accord.
Donc je n'ai pas vu d'autres familles, d'autres mères-filles, d'autres pères-filles, voilà.
D'accord. Et est-ce qu'il vous disait de ne pas en parler?
Oui, parce qu'il a dit que c'était intime et que même les couples n'en parlaient pas.
D'accord. Et vous, bien évidemment, vous croyez que c'était ce qu'il fallait faire?
Oui, bah déjà avec ma mère, vu que je n'étais pas fusionnelle, voilà, je n'allais pas lui dire. Parce que je pensais qu'elle allait être jalouse et qu'après elle allait m'en vouloir, un truc de jalousie. Et vu que je n'avais pas d'amis et que je ne dormais pas chez les gens.
Oui. Donc vous ne saviez pas comment ça se passait?
Non.
Alors... Je m'excuse, hein, et n'hésitez pas à me rembarrer si ma question ne va pas bien, mais on a du mal, quand on ne connaît pas ce genre de situation, à imaginer qu'il puisse y avoir des actes sexuels pour une fille de 8 ans, pour un enfant de 8 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect psychologique, intime, etc., des paroles, il y a des actes. Est-ce que la petite fille de 8 ans que vous étiez ne souffrait pas physiquement ?
Quand il me pénétrait, oui, mais bon, après, je pensais que c'était normal. Après, je pense pas qu'il y ait rentré à fond.
Vous pensiez que c'était normal?
Oui.
Et donc, à un moment donné, est-ce que ça veut dire que sur, si on reprend les premières années, par exemple, ça veut dire que c'était rentré dans une certaine normalité, c'est-à-dire que vous n'en étiez pas plus perturbé que ça?
Non, apparemment, ma mère m'a dit, et après, ça s'est effacé avec le recul,
oui,
que quand je venais de chez mon père, j'étais énervée, oui, et j'avais dit à maman que j'ai malaxé mon père, et que je le pétris, et ma mère, elle avait dit, c'est bien.
D'accord.
Je lui avais dit, malaxé, pétri, avec le recul, voilà, j'en ai parlé à Aurélie, parce que les relations mère-fille, voilà. Je connais pas trop de mères et de filles, et apparemment c'était une alerte, et même j'en ai parlé après au groupe de parole et tout, à ma psychologue et tout.
Quand, alors on est dans une situation où en fait votre papa ne vit pas avec votre maman, ils sont séparés, donc vous y allez un week-end sur deux. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir du moment où ça a commencé, il y avait une sorte un peu de vie de couple?
Ah oui, bah avec mon père quand j'y allais, oui, puisqu'on regardait les émissions ensemble, même si j'avais une chambre, parce que mon père il avait pris un appartement avec deux chambres. Bon, si ma mère voit, des fois je dormais avec lui dans le lit.
Parce que votre mère, elle passait ?
Ben, pour venir me chercher.
D'accord. Mais là, vous n'étiez jamais dans le lit de votre père ?
Ah non.
D'accord.
Et elle passait pas à l'improviste. Donc, de toute façon, j'étais déjà habillée quand elle passait.
D'accord.
Mais bon, je dormais.
Vous aviez chacun votre chambre ?
Normalement, oui.
Est-ce que ça veut dire aussi que par moment, il vous considérait comme une petite fille et qu'il vous laissait tranquille?
Oui, parce que quand il faisait la sieste, bah, je jouais dans ma chambre avec micro, je chantais.
D'accord. Vous ne semblez pas, sur cette étape-là en tout cas, garder de mauvais souvenirs de cette période?
Ben, il ne m'a pas battu, il ne m'a pas dit... On le fait de force, et puis j'avais des bonnes relations avec mon père à part ça. Par exemple, on pouvait avoir des relations sexuelles et après faire du manège ou acheter des capitaines choc.
D'accord.
Et quand mon père y dormait, je chantais comme une petite fille.
Est-ce que votre père... En tout cas, j'ai pas l'impression, hein, dans ce que vous me dites, mais peut-être que c'est pas dit. Est-ce que votre père a fait usage de la violence avec vous?
Ben, quand je travaillais pas bien à l'école, quand ma mère elle lui disait de me frapper, qu'il me frappe à la ceinture, cul nu. Voilà, quand il estimait que l'école, quand ma mère lui disait que je travaillais pas bien à l'école, oui, mais sinon non.
C'est-à-dire que dans les relations. Je ne vais pas dire qu'il vous imposait, puisque c'est pas comme ça que vous le décrivez en
non,
tout cas.
Non, il m'imposait hein, pas.
C'est pas comme ça que vous le décrivez, mais il n'y avait pas de relation violente.
Non.
Est-ce que vous en gardez alors, le mot est peut-être pas choisi, pas bien choisi, mais vous n'en gardez pas en tout cas un souvenir de douleur.
Non, j'en garde pas un souvenir de douleur, je l'avoue. Je ne suis pas là pour faire croire que j'ai souffert et tout. Je préfère être franche.
Quand vous pensez à ça, qu'est-ce qui vous vient en tête?
Mon père a fait une erreur.
D'accord. Mais vous,
à l'époque,
comment vous estimez que vous l'avez vécu? Avec le recul, vous savez, c'est un peu comme quand on regarde une photo, par exemple, au bord de la mer, hop, tout de suite, on a en quelque part, ou qu'on vous décrit une photo, hein, je m'excuse, mais on a le goût du vent, vous savez, qui reste là, on entend un peu le bruit des vagues. Vous, qu'est-ce qui vous vient tout de suite quand vous pensez à cette période-là?
Ben, dommage que j'avais pas d'amis parce que bon après j'aurais pas eu tous les traumatismes en fait. Quand je pense aux actes en lui-même, bon c'est pas violent, j'en garde pas un mauvais souvenir, mais c'est l'après quoi. Je me dis si ma mère elle avait vu quelque chose, quand j'aurais dit malaxé, elle aurait pu lui parler, ça aurait pu s'arrêter avec le recul.
Est-ce que vous avez la sensation, Marina, qu'à un moment donné vous avez lancé un appel pendant cette période-là, ou que soit involontairement quelque chose qui vous aurait échappé, ou que vous auriez commencé à faire part d'un doute quant à ce qui se passait?
Ben, quand j'ai dit à ma mère, j'ai pétri, j'ai malaxé mon père, ben, je pense avec le recul, hein, je le vois maintenant, que c'était un appel. Et puis ma mère me trouvait énervée et tout, passage, voilà. Donc je pense qu'avec le recul, je voulais alerter. Mais à l'époque, quand ça s'est fait, bon, ils étaient séparés, ma mère a collectionné les hommes.
Et ?
Et du coup, elle n'a pas pu tout faire, puisque même quand je passais le week-end chez ma mère, c'était mon frère qui me gardait pendant que ma mère allait au cinéma. Donc elle ne pouvait pas tout faire.
D'accord. Chapitre 4, Une vérité douloureuse. Marina, cet inceste, hein, puisque c'est ça le mot, cet inceste, il dure de 8 ans jusqu'à...
Bah alors, il avait arrêté quand j'avais 11-12 ans et après il a repris en 2011, un mois et demi, deux mois.
D'accord, et là vous aviez quel âge ?
15 ans.
15 ans. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'arrête ?
Ben en fait, il m'a dit que c'était autorisé, il a tellement banalisé que j'étais à l'internat, j'avais une meilleure amie. Et j'ai dit à Jennifer qu'elle pourrait essayer avec son père, qu'on parlait de nos vacances. Et j'ai dit qu'elle devrait essayer, que c'est génial et tout ça. Et même mon père il m'a dit que je pouvais inviter Jennifer pour qu'il lui montre aussi les choses sexuelles.
D'accord. Donc, mais il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Déjà, vous dites à Jennifer que c'était super. C'est comme ça que vous le voyez à l'époque ?
Oui.
C'est comme ça que vous le voyez. Qu'est-ce qui était super à l'époque ?
Ben, vu que c'est autorisé, les actes.
Pour vous, les actes étaient super. Ça veut dire que c'était des actes qui étaient générateurs de plaisir ?
Ben, j'avoue que oui, c'est corporellement. Ben, oui, puisqu'il n'y avait pas de violence. Je ne peux pas dire que...
Physiquement et sentimentalement, il y avait quelque chose d'agréable ?
Sentimentalement, oui, ce n'était pas du forcing.
D'accord.
Il ne m'a pas frappé pour le faire. Je ne peux pas...
D'accord.
Je ne peux pas inventer des choses. Donc.
Bien sûr. Et alors, votre père avait suggéré que votre ami vienne.
Oui.
Qu'est-ce qu'il vous avait dit ?
Ben, qu'il pourrait lui montrer que c'est bien d'essayer avec quelqu'un de plus âgé, qu'elle prendrait du plaisir. Et voilà.
Quand il vous parle de ça, vous le vivez comment ? Vous n'êtes pas jalouse ou...
J'ai dit, elle a le droit aussi à son moment de bonheur.
D'accord, donc pour vous, il y avait quand même une certaine normalité et c'était plutôt positif.
Oui.
Après coup, on sera amené à en reparler, mais est-ce que pour vous, aujourd'hui, ça veut dire que peut-être il y en a eu d'autres enfants dont votre père a abusé ?
Je pense pas. Je sais même pas s'il avait l'oreille à Jennifer. Je pense que parce que moi, je ressemblais à ma mère.
D'accord.
Alors, ma mère, elle a dit que peut-être il avait fait avec d'autres enfants. Mais
moi, vous n'avez pas de certitude.
Et je ne le crois pas.
D'accord.
Ce n'est pas un pédophile.
D'accord. Ça n'est pas un pédophile. Votre père
n'est pas un pédophile. En série, en puissance.
D'accord.
Moi, je ressemblais à ma mère. C'est ça le défaut. C'est que...
Vous pensez que vous étiez une alternative à votre mère et qu'il était toujours dans la recherche de votre mère ?
Oui, parce qu'avant de commencer, avant que ça commençait, mes 8 ans dans les paroles, il a dit que je lui ressemblais, qu'elle était belle.
D'accord. Vous parlez à votre amie d'internat de ça, qu'est-ce qu'elle vous dit ?
Non, c'est pas bien et tout, donc moi je la crois pas, on s'engueule et tout. J'ai dit du coup qu'elle le garde pour elle, qu'elle le dise pas,
oui.
Donc on s'est engueulé. Après, elle a dit à sa mère, et donc Jennifer m'a appelé, elle m'a dit « C'est vrai, tout ce que tu vis avec ton père. » Et en fait, je ne savais pas qu'il y avait l'haut-parleur. Parce que j'avais un portable, c'était mon premier portable. Et j'ai dit « Ben oui. » J'ai su après qu'il y avait sa mère qui avait entendu, parce que sa mère, je pense qu'elle ne la croyait pas. Et après, sa mère, elle en a parlé au directeur de l'école, le directeur m'a convoqué. Au début, j'ai dit que c'était pas vrai et tout, puisque j'ai dit, oulala, le directeur et tout. Après, l'appeler la police. Enfin, j'ai pas été entendu après le soir même après le directeur. 2-3 jours après, quoi. C'était début octobre 2011. Et après,
comment ça s'est passé avec la police ?
Déjà, j'avais avoué la veille à un éducateur qu'en fait, je l'avais bien vécu, à Mathieu Maillère.
Vous l'avez bien vécu ? Que les choses étaient vraiment arrivées.
Oui.
Oui.
Et puis, après, il en a parlé. De toute façon, la police était déjà avertie. Et bon, j'ai compris qu'il fallait dire la vérité à la police, quoi.
À la police, qui vous a interviewé ? Interrogé un homme, une femme ?
Ils étaient plusieurs ? Ils étaient deux. Un homme, une femme.
Quel souvenir vous gardez de cet entretien ?
Au début, je pensais qu'il aurait juste un rappel à la loi. Donc, j'étais allée hyper tranquille. Parce que même Jennifer m'a dit, t'inquiète pas, elle aura juste un rappel à la loi. Et j'ai dit, d'accord.
C'est-à-dire que quand vous êtes allé à la police, quand vous avez été entendu par la police, vous avez pensé à ce que ça pourrait provoquer chez votre père. Vous, vous n'aviez pas peur de dire à la police quoi que ce soit ?
Non, je dis, c'est juste un rappel à la loi, tout va bien, quoi.
Vous leur avez raconté les choses comme vous me les racontez là ?
Oui.
Aussi naturellement ?
Oui.
Est-ce que vous avez senti dans cet entretien avec la police qu'il y avait quelque chose qui coinçait ? Que finalement, ben, Jennifer vous avait dit que ça ne se faisait pas, sa mère, voilà, l'éduc, le directeur, la police. À partir de quel moment vous vous êtes rendu compte que finalement, c'était peut-être pas aussi naturel que ce qu'il disait ?
Ben, déjà, quand j'étais face à la police, et après, bon, ben, j'avais la psychologue une fois par semaine, parce qu'à l'internat, bon, c'était des psychologues d'internat une demi-heure. Et puis, bon, déjà la police, mais bon, je disais, c'est, il a fait une erreur, c'est juste un rappel à la loi.
D'accord. Et quand vous faites cette déclaration à la police, vous faites cette déclaration à la police, ça a quand même un sens, hein, même... voilà, si on est jeune, est-ce que vous pensez à votre père à ce moment-là et éventuellement, alors vous dites, ça sera juste un rappel, mais vous pensiez que vous allez lui faire du mal, que...
J'ai dit, il va m'engueuler, parce que je pensais le voir 2-3 semaines après. Hein.
D'accord.
J'ai dit, merde, il va m'engueuler, je l'ai trahi, bon, j'espère qu'il me pardonnera, voilà, et que nos relations pourront être comme avant les actes. Sans acte, j'ai dit, j'espère qu'il m'en voudra pas, quoi. J'ai dit, merde.
À ce moment-là, vous parlez des actes, à ce moment-là, au moment où l'affaire, entre guillemets, éclate, pour vous, on vous a dit que c'était pas normal, mais vous, vous ne voyez toujours pas l'anormalité de la chose.
Ben si, parce que j'ai dit un rappel à la loi, c'est que c'est pas normal. Mais après, j'ai dit, je pensais que nos relations allaient reprendre comme avant.
Quand vous dites nos relations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voyez quand même revenir chez lui les week-ends,
oui.
Et au risque qu'il se repasse la même chose ?
Non, je pensais qu'un rappel à la loi et qu'il allait arrêter, quoi. C'était ça que je m'imaginais.
D'accord, donc là, à la limite, on lui tire les oreilles,
oui.
Voilà, hein, c'est un peu comme ça que vous aviez vu les choses,
oui.
Et puis finalement... C'était pas si grave que ça. Enfin, vous, ça vous aurait pas empêché de continuer à avoir des relations normales avec lui. Normal,
oui,
je parle de relations normales.
Oui, normal,
hein.
Je pensais vraiment, réellement.
D'accord. Donc, il y a la police, il y a tous ces gens-là hein, qui commencent à tournoyer autour. Et puis, il y a votre mère. À quel moment elle apprend ça ?
Le lendemain de mon audition. Et j'étais en famille d'accueil en week-end parce qu'ils ne savaient pas si ma mère allait me croire ou pas. Donc ma mère, elle est quand même arrivée.
Donc vous êtes en famille d'accueil ?
Un week-end.
Donc des gens que vous ne connaissez pas ?
Ouais.
Comment ça s'est passé là ?
Ah, c'était bien, j'aurais bien aimé être placée et rester parce que ça m'aurait appris beaucoup, j'aurais été bien.
Ils étaient gentils ?
Ah oui.
Qu'est-ce qu'ils avaient de différent ?
L'écoute, des gens neutres.
Ouais. Ça, ça vous a fait
et
du bien
puis,
à ce moment-là ?
Un cadre de vie. Par exemple, ma mère, elle aimait bien écouter la télé avec mon beau-père et moi dans la chambre toute seule. Que là, c'était une maison, il y avait plusieurs enfants et tout.
Vous
c'était
vous êtes
le
senti,
meilleur week-end de ma vie.
Le meilleur week-end de votre vie. D'accord. Donc là, après ce week-end, comment ça se passe, les retrouvailles avec votre mère ?
Mais ma mère m'a cru. Moi, j'avais peur qu'elle m'engueule. Et après, ma mère, elle a commencé à avoir la haine avec lui, à le traiter de bâtard et tout. Mais moi, je pleurais parce que mon père, il me manquait. Là, je réalisais que c'était fini, que j'allais plus le voir. Et voilà.
À ce moment-là, que devient votre père ? À quel moment ? Donc, vous avez l'audition, vous en parlez, vous rentrez chez vous après la famille d'accueil. Votre père, est-ce que vous savez comment ça s'est passé ? Il a été interpellé ? Il s'est passé quoi ?
9 mois après, parce que le dossier Toulouse-Carcassonne, il fallait qu'il fasse la navette. Et je ne sais pas si c'est perdu, il y avait un problème administratif, ils l'ont retrouvé, ils ont perquisitionné 9 mois après sa maison et la garde à vue 9 mois après. Évidemment, ils n'ont rien trouvé.
Donc il était libre entre le moment où vous l'avez révélé et 9 mois plus tard, il ne s'est rien passé.
Oui, rien passé. Je l'avais appelé au mois de mai, puisque je m'engueulais avec ma mère.
Ouais.
À l'époque, c'était au présidentiel parce que bon, j'aime bien Marine Le Pen. Et donc ma mère, on s'était engueulés. Et je pensais voilà, que mon père allait me comprendre. Mmh. Et du coup, j'avais appelé mon père et puis il me manquait aussi. Il y avait une copine, une Manon, qui m'a dit appelle-le et tout, n'attends pas et tout. Moi, vu que ça n'allait pas avec ma mère. Et après, mon père, il me disait retire ta plainte et tout, je vais me suicider et tout. J'ai dit ben non, je peux pas. Et là, j'ai dit ben mince, c'est plus grave. C'est là où j'ai compris que c'était. Bon, déjà, j'ai compris que ça allait aller plus loin qu'un rappel à la loi, parce que ma mère, elle disait ben, qu'elle espérait qu'il aille en tôle et tout. Mmh. En prison, et puis bon, il m'a dit retire ta plainte et tout. Je l'ai pas fait, et j'avais pas de portable qui parlait à l'époque. J'avais dit à Jennifer d'effacer les appels que j'ai fait avec mon père. Bon, elle a pas fait, et j'ai demandé à ma mère qu'elle me mette du crédit dans mon téléphone portable. Et elle a vu le numéro de mon père. Elle m'a dit qu'est-ce que c'est. Et le soir même, c'était un dimanche, c'était après le jubilé de la reine d'Angleterre. J'ai dit ben non, j'ai pas appelé mon père, je sais pas. Elle m'a dit t'as toute la nuit pour réfléchir. Et après, je m'en rappellerai toujours, j'ai dit « Maman, viens dans ma chambre ». Et j'ai dit « Écoute, maman, j'ai appelé mon père ». Bon, là, elle m'a engueulée, suppression du portable et tout ça. Et après, en garde à vue, il était 3 semaines et un mois après.
Vous vouliez le revoir, votre père ?
Oui. Je voulais le revoir à l'époque et même maintenant, en toute amitié. D'ailleurs, je lui ai écrit une lettre il n'y a pas longtemps.
D'accord. Quand tout ça, ça est sorti, quand l'affaire est sortie, donc ça veut dire que vous n'avez plus vécu qu'avec votre mère.
Oui.
Votre père était un manque ? L'absence de votre père représentait un manque ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Ça faisait partie de votre équilibre ?
Oui.
Chapitre 5, aujourd'hui et demain. Marina, vous nous l'avez confié, en fait, toute cette histoire, hein, elle est sortie au grand jour après une discussion avec une amie d'internat, et puis il y a tout ce qui a suivi, hein, l'audition à la police, le fait de ne plus aller voir votre père, vous restez chez votre mère. Combien de temps n'avez-vous pas vu votre père après avoir vu la police ? Pendant combien de temps ?
5 ans, parce qu'après j'avais une confrontation avec le juge d'instruction.
D'accord. Pendant 5 ans, donc, vous vivez sans votre père ?
Toujours, je ne l'ai vu qu'une fois pour la confrontation. Donc, en fait, je vis depuis 10 ans, je ne vois plus...
Vous l'avez vu qu'une fois ?
Voilà.
Vous l'avez vu qu'une fois. Avant de le revoir, qu'est-ce qui s'est mis en place autour de vous pour vous accompagner peut-être dans la reconstruction ?
Je partais une fois par mois avec une association humaine.
Oui, qu'est-ce que vous faisiez dans cette association ?
Du ski en fauteuil, du char à voile, de la marche.
Donc ça c'était une association de personnes handicapées ?
Oui.
D'accord, mais c'était pas centré sur les actes d'inceste.
Non.
Par rapport à cet épisode de l'inceste, est-ce que vous avez été accompagné par des personnes spécifiques, psychologues, soignants ?
Par l'AMO un petit peu.
Oui.
Et après, c'est vrai que ma mère, à part en novembre 2017, mais entre 2011 et 2017. Bah, à part l'AMO, c'est tout, quoi. Ma mère, elle aimait pas parler de ça, donc non, il y avait rien du tout.
Alors, c'était pas. Alors, c'est vrai que votre mère aimait pas en parler, mais vous ?
Ben oui, mais bon, vu que je pouvais pas me déplacer, je vivais chez elle. Ça servait à rien que j'appelle des psychologues si elle allait pas m'amener.
D'accord. L'AMO, c'est quoi pour les gens qui connaissent pas ?
La sauvegarde de l'enfance, mais je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Le sigle.
Mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il venait chez vous ?
Il venait chez moi et on discutait de comment j'allais. Ma mère, elle était toujours.
Elle était toujours là quand la personne venait ?
Très souvent. Alors, quand elle n'était pas là, j'arrivais à dire aux éducateurs que mon père, il me manquait. Mais après, devant ma mère, j'osais pas trop dire mes sentiments parce que ma mère, j'osais pas tout lui dire ce que je ressentais. Puisqu'après, j'ai fait croire que mon père me manquait plus pour qu'elle me rende mon téléphone portable parce qu'elle avait peur que je l'appelle.
D'accord.
Donc après, c'était mensonger, quoi.
Et oui, donc un nouveau déséquilibre.
Hein. Voilà, j'avais des amis que j'avais connus en vacances dans les colonies de non-voyants. Mais bon, après, ils n'étaient pas déjà tous aptes à comprendre l'inceste. Il y en avait un que je parlais. Bon, il était choqué de ça. Que mon père me manquait. Et vu que ma mère voulait pas que je raconte l'histoire, même quand ma mère me prenait au travail à ses collègues de boulot, moi, j'étais seule.
C'est, ouais.
Bon, alors, je sais que vous... Bon, je veux dire, les seuls moments où j'étais bien, c'est quand j'écoutais BFM TV.
D'accord. Vous aviez, c'était une période quand même où vous rencontriez des gens. Alors vous disiez, vous aviez des séjours avec des personnes en situation de handicap, peut-être des personnes dans la vie de tous les jours. Votre maman ne souhaitait pas que vous en parliez.
Dans la vie de tous les jours, à part dans les séjours, je vivais qu'avec ma mère et mon beau-père.
D'accord.
Il n'y avait pas de personne, pas d'auxiliaire de vie, pas d'amis.
Et donc, et pas de soins particuliers, pas d'accompagnement psychologue en particulier.
Rien.
D'accord.
Jusqu'en novembre 2017.
D'accord. Est-ce que donc ça veut dire aussi que ne s'est pas posé la question pendant longtemps
de nouveau... Si pendant un mois, en 2013, j'étais allée un peu en clinique psychiatrique, puisque oui. J'avais beaucoup de relations sexuelles avec les camarades de classe avant que je sois virée. Et bon, et ma mère, elle pensait qu'il fallait que je sois un mois. En clinique, et après elle m'a enlevée puisqu'il fallait payer après un mois. Et ma mère disait que c'était cher, alors elle m'a enlevée.
Alors
elle
justement, c'est à ça que j'arrivais, c'est-à-dire que vous étiez toujours à l'école, et donc là, vous nous l'avez dit, vous avez eu beaucoup de relations sexuelles, en tout cas plusieurs. Pour vous, cette histoire avec votre père, est-ce que ça avait changé quelque chose, une fois qu'on vous a dit que c'était pas bien, dans la perception que vous aviez justement de ces relations, des relations avec les hommes?
J'en ai eu plus. J'ai eu plus de relations sexuelles.
C'était... Pourquoi vous en avez... Est-ce qu'il y a une relation entre les deux?
Je suis en train de le travailler à mon groupe de parole. C'est que maintenant que je le travaille, parce que j'ai pas de groupe de parole avant.
Oui.
Oui, Madame Boisseau, elle a dit, Catherine, qu'on aimait bien revivre de l'adrénaline, en fait. Inconsciemment, ce qu'on a vécu, on le reproduisait pour l'adrénaline. Inconsciemment.
D'accord.
Mais bon, je l'ai su à pas longtemps, vu que j'avais pas de soins à l'époque, je ne savais pas.
D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous avez repositionné cette histoire à la bonne place, ou est-ce que c'est toujours une histoire qui vous pose question?
Je me dis, c'est dommage que mon père ait fait ça. Après, je me dis, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais j'ai pas de haine envers lui. S'il me répondra à ma lettre et tout, je regarde le courrier tous les jours.
Oui. Il est en prison aujourd'hui?
Non, parce qu'il y a eu un non-lieu.
Il y a eu un non-lieu?
Oui.
Vous avez témoigné au procès?
Il n'y avait pas de procès, comme on dit, un non-lieu... Il n'a pas été acquitté, c'était un non-lieu.
Ah oui, d'accord. Donc oui, pendant, il y a eu une enquête et l'enquête n'a pas prouvé.
Non, parce qu'il y avait les films pornographiques, ils ont perquisitionné 9 mois après, il avait changé d'ordinateur. Parce qu'il m'avait dit au téléphone que son ordinateur était en panne. Je pense qu'il avait jeté et tout.
D'accord.
Il avait changé. Et bon, vu que c'était 9 mois après, voilà.
Et lui donc, n'a pas reconnu.
Non.
Mais vous, vous savez que c'est vrai.
Oui.
Est-ce que vous lui en voulez de ça, de pas avoir dit la vérité?
J'aurais aimé qu'il la dise alors la confrontation. Après, s'il avait peur d'aller en prison, j'aurais aimé qu'il me téléphone et qu'il me dise « Excuse-moi, ma fille, je l'ai fait ». Même s'il n'avait pas reconnu à la justice, j'aurais aimé au moins qu'il me téléphone et dire « Excuse-moi ». Et voilà.
Vous comprenez ça? Vous comprenez ce qui s'est passé? Est-ce que cette histoire n'a pas été une histoire de violence, ça n'a pas été une histoire, vous l'avez dit vous-même, hein, vous n'en avez pas souffert au sens fort du terme, même si forcément ça laisse des séquelles, mais et à côté de ça, comment vous vivez le fait qu'il ne l'ait pas reconnu? Vous dites, c'est normal parce qu'il ne voulait pas aller en prison.
Oui.
Vous le comprenez?
Oui, mais bon, je voulais qu'il m'appelle et qu'il me dise « excuse-moi, je l'ai fait ». Bon, il n'a pas fait, peut-être sa fierté, je ne sais pas.
Est-ce que pour vous, si il avait été condamné, par exemple, qu'il y ait eu un procès et qu'il soit allé en prison, est-ce que ça aurait changé quelque chose pour vous?
J'aurais peut-être plus culpabilisé, dire le pauvre et tout en prison, il est dans un sale état. Surtout que c'est ma mère qui voulait qu'il aille en prison. Moi, ce n'est pas mon but, c'est ma mère qui le traitait de bâtard. Je l'aurais mal vécu. Non, franchement, je l'aurais mal vécu.
Vous y avez pensé à ça pendant l'instruction?
Oui, j'avais peur.
Vous ne vouliez pas que ce soit vous qui l'envoyiez en prison?
Non.
Non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites que il n'avait pas le droit de vous faire ça?
Je le dis dans mon dossier. Il n'avait pas le droit de me faire ça. Voilà, même s'il a vécu une vie compliquée.
Ça veut dire quoi, il a eu une vie compliquée?
Une enfance difficile.
Oui.
Je l'ai vu dans le dossier il n'y a pas longtemps, à Vimed. Oui.
Vous pensez que le fait d'avoir une vie compliquée, ça peut excuser ce genre de comportement ou pas?
Pas comprendre, qu'on peut comprendre.
On peut comprendre.
Après, il n'a pas eu de suivi et tout psychologique. Après, je pense qu'il s'est senti abandonné quand ma mère elle lui a dit « je t'aime plus », qu'elle n'a jamais aimé, elle l'a considéré comme une merde. Je pense que ça a accentué, mais je pense qu'il n'aurait jamais fait ça s'ils seraient restés ensemble, j'en suis persuadée.
Vous avez 25 ans, vous l'avez dit, pour différentes raisons, déjà parce que votre mère n'y était pas très, très favorable, et puis parce que vous n'étiez pas autonome à l'époque. Le travail de reconstruction ou de construction n'a pas encore vraiment eu lieu, vous commencez à peine, c'est ça?
Je vois une psychologue à Limoges,
oui.
Parce que bon, ma mère m'a un peu forcée à aller à Limoges, puisque j'avais fait 2 stages en ESAT,
oui.
Ma mère voulait que j'étudie, donc je suis à Limoges. Je pense avoir rencontré un homme, bon, c'était pas le bon, il voulait se marier religieusement et tout, en Guinée. Bon, c'était pas pour moi, j'ai pris un logement à la ZUP. Bon, là, je vois une psychologue et je fais partie d'un groupe de parole. Et voilà.
Ça vous fait du bien?
Oui. Parce que aussi.
En quoi ça vous fait du bien?
Déjà, je peux dire que j'ai pas la haine contre mon père, les victimes, ils le comprennent. Que si je dis dans la société, j'ai. Contre mon père. J'ai pas l'aide malgré ce qu'il m'a fait, c'est un peu bizarre quoi. Même ma mère, elle trouverait bizarre. Et puis parce que on a des séquelles et que c'est pas parce que j'ai beaucoup de relations sexuelles que ce que j'ai vécu c'est pas vrai. Que c'est pas parce que qu'on a eu ça avec le père. Il y en a qui sont traumatisés, qui veulent plus de relations sexuelles, mais il y en a qui les multiplient. Et que c'est pas parce que j'en ai beaucoup que je l'ai pas vécu, parce qu'il y en a qui peuvent penser ça.
Vous avez 25 ans, est-ce qu'à un moment donné vous vous imaginez vivre avec un homme?
Non.
Non, pourquoi?
Je préfère un chacun chez soi.
Aujourd'hui, Marina, on arrive au bout de ce témoignage et je tiens vraiment à vous en remercier parce que vous avez été très, très honnête. Marina, comment vous vous voyez dans 5 ans? Quelle sera Marina, quelle sera la vie de Marina dans 5 ans ou quelle serait la vie que vous aimeriez?
Je vis au jour le jour. Et voilà, faire des activités et puis c'est tout.
Merci Marina. Bon courage pour la suite.
Merci.
Je tiens à adresser un immense remerciement à toutes les femmes qui ont eu le courage de témoigner dans ces podcasts. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de Baby Shoe Service Limoges et Harmonie Mutuelle. Il a été réalisé en partenariat et en collaboration avec la délégation départementale Femmes-Hommes de la préfecture de la Haute-Vienne, l'association France Victimes, l'association de réinsertion sociale du Limousin, la maison de protection des familles de la Haute-Vienne et l'association de prévention du psychotrauma chez l'enfant en Limousin. Et un grand merci à Yann Brisson et RTF Limoges pour le montage de l'ensemble de ces podcasts.
Oui, c'est à toutes les femmes battues.
qui jusqu'à présent se sont tus, frappés à mort par un sale con, que je dédie cette chanson.